Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Aura des pâquerettes, l'émission d'Aura FM, la fédération des radios associatives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En ce mois d'avril 2024, c'est Radio BLV qui vous propose de regarder pousser les pâquerettes de son petit coin de Drôme. Depuis 4 ans, au mois de mars, nous proposons le Mars des femmes sur Radio BLV. Un mois pour montrer qu'il suffit de décider pour trouver des interlocutrices pour chaque thème que l'on souhaite aborder. Cela donne de multiples rendez-vous, parfois étonnants et souvent passionnants. Nous vous proposons donc un Aura des pâquerettes entièrement féminin. Année olympique oblige, on démarre avec un extrait de la table ronde sportive « Les femmes prennent leur place dans le sport » où il est question d'émancipation par la gym dans les années 70 à Porte-les-Valences. Alors le sport peut être synonyme d'émancipation et Annie, tu fais partie de Femmes Solidaires qui a créé à Porte-les-Valences le premier club de gym pour femmes. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Alors peut-être que d'ailleurs Femmes Solidaires à l'époque s'appelait encore l'Union des Femmes Françaises.
C'est Georgette Bernard qui en 1970 faisait partie donc de l'Union des Femmes Françaises avec Jeannine Chauvet. Et en 1970, elles se sont dit « comment faire sortir un peu les femmes de chez elles ?» Donc elles se sont dit « on va peut-être créer un cours de gym ». Elles ont tenté, effectivement, le lundi soir à 20h, je crois si c'est 20h ou 20h30, parce que je n'étais pas encore à la gym à ce moment-là, j'ai pris la gym que 4 ans après, on a commencé avec une heure de gym par semaine. C'était déjà des dames qui avaient presque une cinquantaine d'années qui sont venues. Et puis petit à petit, ça a plu, ça a fait sortir les dames de chez elles, celles qui ne travaillaient pas, ont trouvé un petit loisir aussi, parce que tout le monde ne travaillait pas encore à l'époque, en 70. Et les femmes qui travaillaient, elles trouvaient du plaisir aussi en sortant du bureau ou des usines, à partager un petit moment de convivialité aussi, discuter, se faire du bien au corps aussi et à l'esprit. Voilà. Petit à petit, les cours gym ont tellement plu que nous sommes passés à 2 heures par semaine, 3 heures et 4 heures par semaine. Actuellement, nous n'avons plus que 3 heures par semaine parce qu'on avait un cours le vendredi après-midi et maintenant il y a les week-ends un peu prolongés, donc plus personne venait, on s'est trouvé plus qu'à 5. Actuellement, chez Femmes Solidaires à Porte-les-Valences, nous avons 53 adhérentes au cours de gym. Un cours de gym le lundi matin de 10h à 11h. Un cours de gym de pilates le mardi de 18h à 19h et un cours de gym de stretching le mercredi de 18h à 19h qui est toujours bien plein puisque mercredi dernier nous avions 29 personnes.
Alors ces cours de gym ça a quand même été tu disais donc 1970
oui.
Les femmes Porte-les-Valences, c'est aussi une ville ouvrière.
Ouvrière.
Voilà. Donc, des femmes qui soit sont chez elles,
voilà.
Soit travaillent parfois à l'usine.
Mmh.
Quand je disais vecteur d'émancipation, c'est quand même ça, parce que ça voulait dire quand même d'un seul coup que ces femmes se permettaient, parce qu'on peut vraiment parler de ça, se permettaient de prendre un temps pour elles. Entre
voilà.
Femmes.
Oui, c'est ça, exactement. C'est peut-être les premières fois où elle mettait un petit peu aussi des shorts, des vêtements de sport, je pense. Et puis, les cours étaient aussi... c'était organisé par Georgette Bernard, qui était bénévole à l'époque. Et on a commencé un peu notre cagnotte des femmes solidaires comme ça, parce qu'il y avait une petite participation. Et maintenant, c'est relativement pas cher pour toutes les bourses, parce que pour 3 heures de cours, 195 € toute l'année. Et nous travaillons avec des animatrices diplômées. Voilà.
Et puis, votre volonté, c'est vraiment, donc ça reste des cours pour femmes, entre
oui,
femmes.
Pour femmes, que femmes.
Mais ouvertes à tous, c'est-à-dire qu'on ait 20 ans, qu'on ait 70 ans, on peut venir. Il y a
ah,
ça
oui,
aussi.
Oui, la plus âgée a 86 ans et la plus jeune, 36. Voilà. Alors, on a des femmes qui travaillent encore, effectivement, mais on a quand même beaucoup de seniors qui, en arrêtant la retraite, là, elles veulent faire du sport. Voilà. Ou se remettre à faire du sport. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé tomber les cours de salle et qui viennent chez nous parce qu'elles trouvent un peu plus convivial. S'il y en a une de malade, ben on prend des nouvelles, voilà.
Oui, il y a ça aussi. Voilà, c'est que aussi. Le sport, c'est aussi ça. C'est aussi les valeurs du sport, c'est voilà. Ça aussi. C'est le partage.
Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Après s'être mis en jambe, continuons à bouger nos corps en écoutant Bar, Atish et Fariad Azadi et d'autres rappeuses iraniennes dans un titre créé en 2023 à l'occasion du 8 mars. Ensuite, nous interrogerons la place des femmes dans la société à la préhistoire à travers un coup de cœur lecture extrait de la sélection d'ouvrages féministes Mars des femmes et l'interview de Viviane Robin, médiatrice culturelle de la Grotte Chauvet.
برای توماج، برای یاسین، برای پویا، برای آبتین، برای نیکا، برای محسا، برای شادی، بعد دردا، برای زندگی نکرده، برای موندن، برای بعد ما زخم رو نپوشوندن، برای قانون، ترازوی میزون، برای زندگی نرمال بیزور حکم دین شدیم اعدام حبس، قیام نکنی میشیم این بار هست، بوی خون مردم رو بیدار کرد، سکوت ترکی تیر بار هست، ولی این بار فرق داره سرودمون، سلام تهمانده پیر گروهتون، وقتش بندازیم همتون رو تو گورتون، شما میکشیم و جون میگیریم از خشم، میخوام آرزوی مرگ کنید از ترس، بو هم انقلاب و میرسونیم تش جش، توی آینه دیدیم قهرمان برگشت، برنده بودیم فقط وقتش نبود، معتبریم شما جفک زبون، کردین اعلان جنگ، جسد طولش تای صد، سکوت میکنی شما عر میزنی، میکنی خفت دم، این بار صدامون رسید به اوجش مظلوم مرد شده یکی نقده هرچی گلوله است جدی کن من پشتم شک کشیده ظلمت کن دست این دفعه جرعتمون از بسیجی تا خود معظم و لب نفیشی تک تک و سرعت نور
What is freedom like when you speak your mind hearing the weakest sights in the darkest hours in the deepest nights these are times that need us to unite we see the sign we gather our voices trying to be the light so you see people's choices we need to clean the planet from fascists so they will vanish let's end it the man is the panic that costs with every sentence damn it we will resist until everyone is free we stand with too much to lay in someone you see yeah
علیه بردگی بندگی زن برای دنیای بهتر و برابر معلم رها بده دست یورش بریم علیه تروریست گول زن برای آزادی اون که وایساد جلو جنگید بدون ترس آبادگریم لورو کرتون بلوچ فارس و عرب اتحاد برای ایرانه وای نسا عقب بازی گریم پس بیا نکنیم ما وقت و تلف سرکوب نمیشیم شده سرنگونی رژیم کل هدف پسر آقازاده پیچید رفت و وقتی برداشنش پول نفت و پرواز اوکراینی بیگونه دستاتون آغشته به خونه قتل و این کار ال جی بی تی جلو چشام جنازه رو خونه بستر نظام پسر دستفروش کارگر ادام میترسه امام از همه ما
میدونی دختر بودن اینجا دارکه باید دار زوهات بشن چالکه بعدش همه رویه ها درکی اون بر ونگشته اشه پارکه میشه گیلای فشار سنت میگه واسه تو محدود فرصت اگه زیادی بکنی اعتراض میری تو لیست تقیب دولت قانون می نوازه راه اختلاس بازه حاجی پول میشه کاسه بس همین شرایط فاسه اعتراض فازه جلو قاضی پرونده بازه یا میری بالا درخت تو فراری دستت پاسه
این داستان ادامه داره فصل بعد خشونت بچه های زیر 18 سال کشن مخاطب مثبت 25 سال حدود دن کارگردان فرقی نداره کیه
هانی صبری نداره میگه پلان بعدی چیه شکی نداره آزادی پایانی که نقصی نداره دیگه اسپویل از دستم در رفت کیم جا بزنه من هستم حتما نمیشه وقت تلف که سر طرفی بری نمیشه بحث عوض کرد پا بیاین رپ کنیم رپ 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 مهمات تو مغزمونه شلیک میشه از هنجره وقت جنگ ملاحظه بسمونه
Les doigts coupés vient juste de paraître. Anne Lorker est autrice de Polar. Elle a écrit le très bon Les Daronnes qui a été adapté au cinéma. Donc avec Les doigts coupés, elle revient avec un texte complètement différent. Très original, dans un registre tout nouveau dont je pense qu'elle est l'inventrice. Le polar préhistorique. Là, normalement, ça suffit à vous donner envie de le lire, mais je vais vous en dire plus. Donc nous sommes en Dordogne, à notre époque donc, chez une femme, dans le jardin de laquelle des ouvriers creusent une piscine. Et là, le chantier est stoppé net. On découvre un trésor paléolithique, une grotte vieille de 35 000 ans, extrêmement bien préservée. Et sur ses parois, une multitude d'empreintes de mains de femmes, des mains mutilées sur lesquelles il manque un ou deux doigts. Dans cette grotte, deux squelettes, celui d'une femme et celui d'un homme. Et on comprend à la disposition des corps qu'il s'agit d'une scène de crime. La première scène de crime de l'histoire. Une paléontologue brillante met la main sur cette affaire et elle tente de résoudre cette enquête. Le récit fait ainsi des allers-retours entre le présent, les déductions de la paléontologue, et le passé où nous retrouvons Holly, une jeune femme sapiens, éprise de liberté, inventive, douée pour la chasse qui lui est pourtant interdite puisqu'elle est une femme. Holly est rebelle, elle n'hésite pas à se dresser contre l'ordre établi par les hommes de sa tribu. Elle est exploratrice, curieuse, et c'est ainsi qu'elle découvre les Néandertaliens, des hommes et des femmes qui se sont installés près de chez elle. Elle découvre d'autres mœurs avec eux, et surtout d'autres rapports femmes-hommes. Elle découvre qu'on leur a menti toute leur vie en prétendant que les femmes ne pouvaient pas chasser au risque de voir le monde s'écrouler. C'est un polar résolument féministe, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, qui aborde le rôle des femmes au sein d'une tribu, leurs compétences de chasseresse et d'inventrice, le contrôle sur leur corps, la violence des hommes, le désir ou non d'enfanter, donc de nombreux thèmes. Anne Lorker interroge et bouscule de nombreux clichés sexistes sur cette période de l'histoire qu'on nous présente souvent comme la preuve de la supériorité masculine en termes de chasse, de capacité à subvenir aux besoins d'un groupe, etc. Et c'est très intéressant de découvrir que les femmes et hommes de la préhistoire n'étaient pas des animaux en forme d'humain ou d'humaine, mais bien des personnes douées d'une sensibilité à l'art, à la beauté, à la poésie, à la fiction avec des émotions subtiles. Et je trouve qu'il est important aussi de préciser que pour écrire ce roman, Anne Lorker s'est appuyée sur de très nombreuses sources qu'elle cite à la fin du livre. C'est donc une œuvre de fiction, mais très documentée et donc très instructive.
Aura des pâquerettes.
Bonjour Viviane.
Bonjour.
Tu es médiatrice culturelle à la Grotte Chauvet. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, vous organisez une journée de stage sur la préhistoire au féminin. Et donc du coup, on dirait donc que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les personnes, ce sujet de la place de la femme dans la société, que ce soit actuelle ou dans le passé. Et comme on vient d'entendre la présentation du polar Les doigts coupés de Anne Lorker, qui présente du coup une version en fait de ce qu'a pu être la place de la femme et ses relations avec l'homme pendant la préhistoire. Ma première question, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on sait exactement sur cette période et sur la place de la femme dans la société à ce moment-là.
Alors, c'est une vaste question qui, ça va être difficile d'y répondre en peu de temps. La préhistoire, c'est déjà un espace-temps immense. Nous, à la Grotte Chauvet 2, c'est plutôt le paléolithique supérieur. Il me semble que le roman aussi, il se passe plutôt à cette époque-là. Aux alentours de, il me semble, en regardant la critique, 40 000, moins 40 000, moins 30 000. Donc ce qu'on sait à cette époque-là, eh bien que ce sont des homo sapiens comme vous et moi, donc ils nous ressemblent beaucoup. On a quand même de légères différences. Ils ont la peau plus foncée, des os plus épais. Ils sont un peu plus grands, un peu plus athlétiques que nous globalement, en ce qui concerne l'apparence physique. Ils ont le même cerveau que nous. Mais ils n'ont pas le même mode de vie. Ce sont des chasseurs-collecteurs qui sont parfois nomades. Donc ce qui veut dire que notamment les sens sont beaucoup plus aiguisés. Certainement que l'ouïe, la vue, etc., le toucher, l'odorat sont beaucoup plus développés que les nôtres en général. Bien sûr que ça dépend aussi de notre métier, de nos pratiques, de notre mode de vie. Mais bon, les chasseurs-collecteurs qui passent énormément de temps à observer ont des sens extrêmement développés, par exemple.
D'accord. Et du voilà. Coup, est-ce qu'on a des éléments d'information sur ce qu'aurait pu être du coup le rôle de la femme au sein de cette société ?
Alors là aussi, c'est complexe parce que ce qu'on retrouve en archéologie, c'est le concret, hein, c'est ce qui s'est conservé. Donc ça va être des squelettes, ça va être des objets, des outils. Donc concernant les femmes, par exemple, c'est la description que je vous ai donnée, hein, donc des squelettes robustes, des femmes qui sont plutôt costauds, hein, voilà, qui font en moyenne 1m75, qui sont donc très actives, hein, qui sont tout aussi actives que les hommes. On va retrouver aussi parfois des représentations humaines, que ce soit dans l'art pariétal, que ce soit dans l'art mobilier, donc les sculptures. Et là, on va avoir très souvent des représentations féminines. Elles sont d'ailleurs beaucoup plus présentes que les représentations masculines. Des représentations féminines stylisées, donc ce n'est pas des représentations réelles de femmes, mais ça nous permet d'avoir quand même une idée de l'idée que se faisaient peut-être les préhistoriques des femmes, justement. D'accord. Après, précisément, leur rôle, certainement très varié. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au début de la préhistoire, donc au 19e, on va projeter nos cultures à l'époque patriarcale, mais on en est encore en partie imprégné, et on va enfermer les femmes préhistoriques dans des rôles genrés, ben, notamment, en gros, ben, soit elles sont absentes, on ne les voit pas, hein, comme le dit très bien Marilène Patoumatis, qui a écrit un livre là-dessus, hein, qui s'appelle « L'homme préhistorique est aussi une femme », et qui appelle ça une histoire de l'invisibilité des femmes. Donc, soit elles sont invisibles, soit elles sont réduites à des activités, en gros, élever les enfants au fond de la grotte, hein, c'est très caricatural. Et ça va prendre beaucoup de temps pour que, peu à peu, on s'éloigne, on relativise ces représentations. Et actuellement, effectivement, beaucoup de questionnements sur les femmes à la préhistoire, des livres, des films, etc. Alors, plus ou moins, fidèle et plus ou moins réaliste. Alors après, le livre que vous évoquez, c'est une fiction, donc voilà, c'est une fiction.
Oui, dans ce livre, donc, ils abordent le sujet de traces laissées dans les murs de grottes avec des mains où les doigts seraient a priori auraient été coupés, selon l'interprétation de l'autrice. Donc ça, c'est...
Voilà, donc par exemple, vraiment. C'est un bon exemple d'une interprétation plutôt erronée. Alors, je pense qu'elle fait référence à la grotte de Gargas. On a énormément de mains négatives, on en a aussi quelques-unes, nous, à Chauvet. Hein, ce sont des mains, donc on pose sa main comme un pochoir directement contre la paroi et on va prendre les pigments, par exemple les pigments rouges, donc l'hématite, hein, qui est une pierre qui est naturellement rouge. On a broyé l'hématite, on a un pigment rouge qu'on va mélanger à sa salive et lorsque c'est homogène, on va souffler la peinture, on va la cracher sur sa main. Ce sont les mains négatives. Et à Gargas, effectivement, on a énormément de mains, on a plusieurs centaines, et on a des mains même d'enfants, de bébés. Donc ça, c'est très intéressant, hein, parce que ça montre que parfois, dans les grottes, eh bien, il n'y a pas que les adultes, et il n'y a pas que les hommes, comme on pensait au 19e, mais il y a aussi parfois les enfants, les femmes, etc. Et on ne sait pas, peut-être toujours. En tout cas, voilà, parfois, on en a la preuve. Et effectivement, à Gargas, parfois, ces mains, elles sont, les doigts sont, certains sont plus courts. Donc il y avait eu cette hypothèse, mais qui est quand même... réfuté depuis que c'était des mains amputées. Ça fait pas beaucoup de sens. Si on réfléchit à cette époque-là où on est on est déjà peu nombreux, on est chasseurs-collecteurs, parfois nomades. Enfin, s'amputer des mains volontairement, enfin des doigts, c'est vraiment quelque chose d'hyper. Enfin déjà c'est hyper violent. Ça voudrait dire que de base ce sont des sociétés violentes. Et puis il manque des doigts. C'est fondamental les doigts pour des personnes qui passent leur temps à fabriquer des choses, etc. Donc, c'est pas du tout cohérent. Aujourd'hui, on pense plutôt que ce sont des doigts pliés. Et d'ailleurs, certaines mains négatives, on peut distinguer, hein, le doigt qui est légèrement plié. Donc, plutôt éventuellement un langage de signes où on pourrait communiquer en pliant les doigts. Pensez par exemple, notamment lorsqu'on est en train de chasser. C'est une des hypothèses. Voilà.
D'accord.
Mais certainement pas des mains mutilées, des doigts mutilés.
Et donc, du coup, on peut voir du coup, que ce sujet de cette période et puis de la femme aussi, à qu'est-ce qu'elle rôle elle jouait, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus. Et donc, d'ailleurs, le stage que vous proposez est complet. Comment est-ce que vous expliquez cet intérêt ?
Ben, je pense que c'est un phénomène global qui a commencé déjà très tôt, hein, des questionnements. En fait, à partir du moment déjà, hein, si on suit l'histoire, hein, de l'archéologie du féminisme, on s'aperçoit que dès les années 60, 70, à partir du moment où il y a des femmes qui commencent à faire de la recherche elles-mêmes, qui deviennent préhistoriennes, qui deviennent archéologues, peu à peu, elles vont s'intéresser au rôle des femmes, aux femmes, etc. Donc ça commence à peu près à ce moment-là. Et puis ça va prendre de l'ampleur, et bien notamment avec les phénomènes de société actuelle. Moi, je pense même des phénomènes comme MeToo, etc., où la situation des femmes est mise en avant. Et on a de nombreux questionnements à ce sujet. Donc c'est tout à fait normal aussi que ça nous renvoie à la préhistoire, puisque la préhistoire, c'est un passé lointain, c'est nos origines. Donc qu'il y ait des questionnements sur, déjà à cette époque-là, quels étaient les rôles et les positions des femmes à la préhistoire, c'est intéressant. Après, ça peut mener à beaucoup de malentendus. On peut y projeter beaucoup en même temps. Hein.
Oui.
On peut projeter des fantasmes, puisque c'est nos origines. Donc, c'est vraiment un sujet qui est pas anodin, hein, qui est pas neutre. Et voilà, il faut rester quand même précis en se basant sur les faits concrets archéologiques, tout en ayant aussi quand même une possibilité d'interpréter, mais de manière réfléchie, construite.
Et du coup, justement, pendant ce stage que vous proposez, donc c'est le deuxième que vous proposez,
oui,
est-ce qu'il y a une forme aussi d'imaginaire que vous créez aussi autour de ce stage, ou est-ce que vous basez plus sur des faits?
Oui, tout à fait, c'est lié de toute manière, hein, parce que c'est très puissant, hein, la préhistoire, rien que le visuel, hein, les représentations. Grottes, etc. On peut pas. On va être touché parce que ces œuvres, elles ont un impact émotionnel très fort. Et puis, du coup, ça va ouvrir l'imaginaire. Mais malgré tout, on se base quand même sur les choses très concrètes. Donc, c'est un stage qui est assez dense. Hein. C'est une journée complète où on va essayer d'ouvrir le regard, de clarifier et en même temps de complexifier. La manière dont on va aborder cette thématique des femmes et de la préhistoire, et aussi des femmes travaillant en préhistoire, que ce soit des archéologues, des préhistoriennes, ou bien par exemple Eliette Brunel, qui a fait partie des découvreurs, qui a écrit sur la découverte, etc. Donc tout d'abord, Valérie Mollès, qui est notre responsable scientifique et médiation culturelle, fait une visite de la galerie de l'Aurignacien, une visite commentée. Ensuite, elle fait une conférence sur la représentation humaine et notamment féminine. Donc ça permet aussi aux personnes qui participent d'avoir vraiment des bases concrètes, hein, de tout cela, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'images de représentation humaine. Malgré tout, même si en général dans l'art pariétal, c'est plutôt les animaux qui sont représentés, l'humain est quand même présent, donc c'est important de le savoir et de le voir. Ensuite, l'après-midi, je propose deux ateliers où on fabrique des Vénus. Donc, on s'inspire de Vénus qui ont été fabriquées à la préhistoire. Certaines ont été fabriquées en argile, il y a déjà 27 000 ans. Et aussi en stéatite, c'est une pierre qui se travaille facilement. Donc, les personnes qui participent peuvent à ce moment-là, et ça, elles l'ont énormément apprécié l'année dernière, c'est qu'elles se mettent à elles-mêmes à faire, parce que pendant toute la matinée, elles ont écouté. Et là, elles peuvent faire, elles peuvent, donc avec de petits silex, elles peuvent... travailler, sculpter la stéatite, la pierre, travailler leur petite figurine féminine ou l'argile. C'est les deux matières qui sont utilisées et ça a beaucoup plu l'année dernière, le fait de faire soi-même. Et ensuite, en fin de journée, donc, je propose une visite thématique dans la grotte Chauvet 2 où on va donc parcourir la grotte pendant une heure et demie et on va faire le focus. Alors bien sûr, on se base sur ce qu'on voit. Et dans la grotte Chauvet 2, c'est surtout des animaux. On a des représentations féminines, mais beaucoup plus rares. Mais à chaque fois, je vais quand même aborder les femmes. Donc, comme je vous disais, que ce soit Eliette Brunel qui a découvert la grotte, mais que ce soit aussi ce qu'on sait sur les femmes préhistoriques et ce qu'elles ont pu faire. Par exemple, il se peut qu'elles aient peint dans les grottes, qu'elles aient sculpté. Hein, les Vénus dont je vous parlais, on suppose que peut-être ce sont les femmes qui les ont fabriquées.
Oui.
Certaines sont dépendantistes, donc peut-être que c'est une des hypothèses que c'était des sortes d'amulettes pour protéger les femmes enceintes, par exemple. Donc voilà, globalement, et puis on arrive au fond de la grotte, et au fond de la grotte, on a une représentation féminine sur le pendant de la Vénus. On a le bas du corps d'une femme qui est entourée d'un bison et d'une lionne. Donc on a aussi cette représentation qui est très importante, qui est tout au fond, qui a une place vraiment... assez impressionnante dans la grotte.
D'accord, merci. Donc du coup, cette journée pour cette année, elle est complète, mais a priori, vous allez peut-être la reproposer l'année prochaine, c'est ça ?
Oui, certainement. Oui, ce serait avec grand plaisir. On aimerait même, peut-être que tout ça va prendre plus d'ampleur si ça continue à autant intéresser le grand public et aussi nous, au sein de la Grotte Chauvet, mes collègues, etc., qui travaillons.
Et vous aimeriez aussi élargir votre public et peut-être le proposer à des publics scolaires, c'est ça ?
Tout à fait. Comme ici, on accueille donc le grand public, mais aussi on est animateur scolaire. Et ça pourrait être l'objet, oui, d'ateliers. Ce qui est très intéressant avec les scolaires, c'est que ça nous permettrait d'aborder la représentation du corps, comment on se projette aussi sur ces préhistoriques, comment on se les imagine et comment étaient-ils vraiment. Et aussi, ces Vénus, elles sont très intéressantes pour aborder le corps féminin, la représentation du corps féminin. Souvent, ces petites statuettes sont... ont des poitrines volumineuses, sont parfois enceintes, etc. C'est très intéressant pour aborder aussi le genre. Enfin, voilà, c'est un vaste sujet, très riche. Et oui, ce serait très intéressant de pouvoir travailler là-dessus, que ce soit avec des collégiens, des lycéens, et même le grand public, hein, proposer peut-être des ateliers.
D'accord, très bien. Donc du coup, pour les auditeurs et auditrices qui sont intéressés, ils peuvent aller sur le site internet de la Grotte Chauvet pour avoir plus d'informations et vos coordonnées. Et je vous remercie pour.
Mais avec grand plaisir. Merci à vous.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Passons de la préhistoire à l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Mettez vos capuches, on part sur le terrain en plein vent avec un groupe de femmes agricultrices réunies par le CIVAM de la Drôme pour un événement symbolique le 8 mars.
Je suis Maude et on est sur le terrain de Planétaire, ici donc l'association Planétaire à Saint-Péret dans la plaine du Rhône. Et donc c'est un terrain qui est attenant à un CHRS, c'est un centre d'hébergement là qui est dédié aux femmes et qui est géré par l'association Entraide et Abri. Et ce terrain, il a une vocation pédagogique et un peu de prendre soin des gens qui viennent. Donc l'idée, c'est d'accueillir des publics très divers, dont des publics plutôt isolés et en situation de difficultés diverses. Et ici, on accueille les gens et on crée du lien entre les personnes dans la découverte du vivant. On s'est dit que pour la journée du 8 mars, ça aurait été un beau symbole d'être sur ce lieu qui est dédié quand même aux femmes avec ce centre attenant, de faire cette action symbolique de planter des arbres, quoi.
Pascal, Sophie,
Roxane,
Pouloud,
Margot, Paul,
Lucie,
Litvine,
Laetitia,
Agathe,
Emou,
Marjolaine,
Anne-Marie,
Corinne,
Maude,
Charlie,
Selva,
Sixtine,
Laure,
Marine.
Ça fait plusieurs dizaines d'années que la question du genre en milieu rural, elle est travaillée, elle est abordée au sein du réseau CIVAM et notamment des groupes en non-mixité choisie qui sont animés. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'il y a un groupe qui a été formé autour de Chabeuil. Et donc, à l'occasion du 8 mars, ce groupe avait envie de faire une action.
C'est par le hasard des rencontres qu'on est arrivé à Planétaire pour aussi avoir une action concrète qui ait du sens dans cette journée où des fois, là, il y a plein d'émissions radio, plein de femmes qui se font interroger, mais planter un arbre, participer à votre projet. Nous, on se bloque une après, mais on vient vous aider.
Je vous emmène sur le sentier forestier, si vous voulez me suivre. Ça va, vous êtes chaussée Donc ici, c'est le cercle des fruitiers. Il reste quelques trous disponibles. C'est des petits sentiers pieds nus dont Maud a parlé tout à l'heure, où à la belle saison, quoi, les enfants peuvent se déchausser et puis marcher sur des matières différentes au sol, des galets, des briques, du sable, de la boue. Ça finit dans la gadoue et de l'eau. Et c'est trop bien. Ils recommencent et ils retournent. Voilà. Un peu plus loin, il y a la bidette à Gadou. Là aussi, ils s'amusent comme des fous avec la terre, les cailloux, l'eau et la dinette. Et ici, le sentier forestier commence. On peut ressortir dans l'angle là-bas ou un peu plus loin. Donc, je vous propose d'y aller librement. Vous descendez, vous tournez à gauche et vous suivez le chemin.
Vous voulez expliquer celles qui ont apporté des plants ou ce que vous avez, comme ça on sait qui, à quoi, comment.
Moi j'ai récupéré un poirier et un pommier chez Nas. Le sol du coup est un tout petit peu différent je pense d'ici, mais après des framboisiers de chez moi.
Ça c'est plutôt pour la haie champêtre,
voilà,
c'est ça, en racines nues. Ouais. Du coup il faut faire le pralin et puis ok, donc creuser le trou.
Cerisier de Sainte-Lucie,
ouais,
cornelier sanguin.
Je suis apicultrice, hein, je précise, du coup forcément c'est mellifère hein, ce que j'apporte.
J'ai apporté quelques pieds de caseille, okay. Un pied d'immortel et des chrysanthèmes.
Ça, ce sera plutôt dans la partie en haut, attenant au parking, on essaye de faire un coin plutôt aromate là-bas.
Ouais, quelques annuelles de fleurs acoustiques qui supportent, elles ont passé l'hiver dehors, donc trop bien.
Et bien ça, du coup, c'est le long du chemin, le long du sentier pieds nus, enfin dans ce coin-là.
Moi, j'ai framboise et noisetier.
Voilà, noisetier et framboise, du coup, dans le cercle du milieu, là.
Okay. Sous forme de semences, donc à voir si vous voulez les semer maintenant ou attendre un peu, parce que là, c'est peut-être un peu tôt. Les soucis, bourrache et œillets d'Inde.
Bah ouais, ça peut faire des chouettes massifs là-bas, le long de l'espace un peu enfant.
J'ai pris la grelinette aussi.
Une grelinette.
Pour les fruitiers, t'as des tuteurs ou pas?
Eh ben, on a des gros poteaux, donc je sais pas si c'est trop gros, type pour la vigne. Peut-être une massette du grillage, ouais. Donc si on a le temps, on peut en mettre, et sinon ça peut attendre. Moi, ce que j'ai, enfin d'expérience qu'on a eue, mais c'est pas très long comme expérience, un an, c'est que les chevreuils passent visiblement en septembre, ici plutôt, septembre-octobre, là, ils ont foncé sur nos fruitiers, voilà. Donc j'ai l'impression qu'on a le temps, là. On a mis des petits tas de broyats autour des plantations à réaliser, mais si ça manque, on peut aller en rechercher. Il y a aussi du fumier de cheval à côté des toilettes sèches.
Il faut prévoir de quoi faire un petit pralinage, hein, avec un peu d'eau, un contenant avec le fumier de cheval. Sera
on a une bassine là-bas, donc il y a un point d'eau.
Alors le point d'eau, il est à côté du tas fumier. Il est au sol, il y a un robinet.
On cherchait un peu dans les herbes, mais il y a un robinet.
Il y a un coffre à outils là, donc on va aller servir aussi en outils. Moi, j'ai quelques paires de gants en plus, j'en ai 3-4.
Je cherche les outils. Elle a dit que c'était quelque part.
Il y a beaucoup de râteaux.
Bah non, mais c'est pour faire la tranchée, on va...
On fait les piochons, ouais. il y en a un ou deux, tu vois.
On va faire piochons et grelinettes.
Elle est pas mal, mais elle est un peu coincée dans les tuyaux, là. Ouais, il y en a une derrière le cabanon, là-bas.
Moi, j'ai ramené la mienne.
Ouais. Par exemple, pour les saules, si vous plantez des saules, ce qui est super pratique, c'est...
Les saules, ils sont où
Ils sont attenants au cabanon aussi.
Ah oui, okay.
Si tu mets la grelinette, ben t'as juste dans les dents, ouais. T'as pas besoin de faire plus en fait, ça s'enfonce
dedans. On verra, l'équipe fleur, elle n'a pas besoin de plus.
Franchement, ouais.
Tiens. Vas-y. Attention, tu vas te faire embrocher.
On va prendre la grelinette et les piochons pour...
Et t'as... Est-ce que la tronche, tu vas non, là, on est dans l'équipe fleur.
Moi, je l'ai une fourche bêche.
T'enlèves ce qui est mort parce que ça va attirer des insectes, ça sert à rien de garder les parties mortes.
Ouais, bah oui.
Comme ça, les gens ils vont partir et ça va peut-être faire
quelque chose. Les champignons, il reste plus grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on lui met à la place? Qu'est-ce qu'en pense Sophie? Les noisetiers sont un peu grands.
Il aurait de la place ici.
Moi, c'est ici.
Bah ouais, ça te dit.
Ah bah carrément.
Oui, il y a un peu de terre encore, mais oui, sinon...
Ça, c'est mort.
Je vais le dire un peu.
Griselinia, Thoralis, tu connais? Il y a qui veut être dans l'équipe fleurs? Il y a une équipe fruitier qui fait avec l'or.
C'est du noisetier là, je vous ai déterré hier avant de venir. J'étais dans le passage, du coup j'ai dit bah allez hop, vous allez déménager en Ardèche.
C'est marron, ce qui a plus la circulation de la sève sous l'écorce. Voilà.
Ça c'est bon.
Là les cailloux comme ça c'est les dépôts des alluvions du Rhône ça. Comme on est en bord de Rhône, C'est le fond de Rhône qui était ici avant et qui a déposé du galet comme ça. C'est le lit de la rivière avant, quoi.
Ah ouais. Et
du coup, c'est plein de cailloux. Gros cailloux. Tu peux pas creuser très profond. T'as que du caillou. Mais bon, ouais, ça suffira, je pense. C'est des tout petits arbres qu'elle a. C'est pas mal de bien ameublir assez profond. Là, ils sont tout petits, ça va, mais sur les noisetiers, par exemple, ouais, ça peut être un peu limitant, ouais. Ouais. Parce qu'il faut qu'ils se fassent de la place, ça les étouffe, en plus, quand tu les rayes en terre. Encore que le noisetier, c'est un système racinaire de surface. Ça ouais, va pas trop en... profond. Je vais ragondir un peu le trou, mais
ah bon, après, il a de la place, là.
Ah ouais, il a de la place, ouais. Moi, je suis Sophie, et je viens de Montvendre, côté de Rome. Voilà.
Et tu fais quoi, toi, sur
Et terre? Je suis pépiniériste depuis un mois.
Je suis Corinne et moi, je viens de Bourg-de-Péage. Apicultrice et productrice de plantes aromatiques et médicinales aussi.
Marjolaine, je suis venue ici parce que j'ai eu vent de la formation qu'organisait Planétaire cet après-midi sur le pouvoir d'agir au féminin. Et instantanément, j'ai bloqué ce créneau dans mon agenda. J'en savais pas plus, j'avais pas de programme, j'avais rien du tout, mais juste en ce 8 mars, pouvoir d'agir au féminin, ça me parlait beaucoup. J'ai vu que c'était suivi d'une plantation d'arbres avec le groupe de femmes agricultrices paysannes concernant. Peut-être qu'il faut y réfléchir. Femmes rurales, ouais. Le groupe de femmes rurales du CIVAM. Et je me suis dit que c'était l'occasion de les rencontrer. Lucie m'en parlait depuis quelques temps. Je me suis dit que c'était l'occasion de les rencontrer et puis de passer un temps en nature, tout ensemble, et surtout à faire ensemble, à faire des actions, et pas juste... j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'espace où on peut discuter, mais là, c'est peut-être moins d'espace où on peut agir aussi entre nanas, et ça me paraissait hyper chouette. Et là, je trouve ça génial de voir 4-5 groupes répartis aux 4 coins du champ, et chacune à l'œuvre, et qui sait ce qu'elle fait là, qui est hyper badass avec ses arbres sous le bras, sa grelinette sous le pied. Je trouve ça hyper galvanisant de voir toutes ces femmes en action.
Après, est-ce qu'on met un petit peu de... Pour l'aider au niveau de la concurrence au départ, est-ce qu'on lui mettrait pas un peu de... Un peu de paillage, ouais, du BRF là par exemple, ou ça serait top. Au début, il va falloir qu'il trouve sa place et qu'il gère la concurrence.
Le BRF, ça veut dire bois raméal fragmenté. C'est du broyat de bois qui a un an.
Ça peut être des branches quand on taille, voilà, et qu'on broie. Et du coup, ça fait un paillage qui va permettre à notre petit cornouiller d'être un peu moins envahi et de ne pas avoir à lutter pour l'eau, pour les nutriments. Ah oui. Et de se développer, du coup, dans des meilleures conditions. Qui, ouais. Mais c'est surtout pour gérer les paillages. Alors après, il y a plein de paillages qu'on peut faire avec tout ce qu'on a sous la main.
Là, j'ai sectionné avec un gros sécateur.
Ah ouais.
Bah, j'ai essayé de le soulever avec la pelle bêche, mais il venait pas. Du coup, j'ai gratté un peu et j'ai vu qu'il était encore bien attaché.
Il va être bien, là.
Et quand tu le sectionnes, est-ce qu'il faut faire gaffe au sécateur?
Ah oui, il faut les désinfecter avec de l'alcool, hein. Idéalement de l'alcool à brûler.
Ouais.
Et puis sinon, bah, ce qu'on a sous la main.
Oui, c'est ça.
Moi, ça m'est arrivé avec de l'eau de toilette, une fois, j'avais rien d'autre.
Ah d'accord.
Mais oui, c'est super important. Bah, notamment, même si on taille les haies chez soi ou quoi, bah, c'est la meilleure façon de contaminer toute sa haie, quoi.
Ouais.
Si on ne fait pas.
Tu ne désinfectes pas tous tes outils à chaque fois.
Elle nous a dit de la gueule de loup et Lorelai, mais je sais pas ce que c'est. Celle-là. Et je suis pas sûre du nom Lorelai.
Et elles ont besoin de quoi pour être plantées?
De caca. Parce que justement, ça fait depuis cet hiver qu'elles sont dans leur petit godet. Elles n'ont pas quitté leur godet depuis 3 mois. Donc elles ont besoin de manger. Et d'être suffisamment espacées. Donc là, on va les espacer de 30 cm entre chaque plant. Et on... Normalement, ça devrait repartir. Et après, autour, on a des semences qu'on va mettre, qu'on va voir si ça part. Bourrage, souci et œillet. Et ce qui part, part. Ce qui part pas. Voilà, voilà l'équipe fleur. Est-ce que vous avez des commentaires, mes esclaves? Oucha! Oucha!
Bravo la sororité!
Je m'appelle Lucie. Je travaille à l'ERL Châtenay à Beaumont-les-Valences en arboriculture. Il y a aussi de la grande culture, mais je ne gère pas trop cette partie-là. Je suis habituée du coup à gérer du personnel. En arboriculture, ça arrive souvent que je gère du personnel. Du personnel où on les chouchoute un peu à coups de café, du petit gâteau. Parce que quand même, t'es dehors en permanence là, en ce moment, ça fait plaisir d'avoir le café. Et je suis dans le groupe des paysannes et sauvages depuis le début. Un peu en y allant en touriste au début, parce que souvent la plupart elles sont mariées avec enfants, des problématiques de genre vachement plus importantes que moi, qui n'ai pas ces soucis-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir les difficultés que j'aurais pas imaginées de, par répartition de la charge mentale ou de comment on imagine la ferme, quoi, où les projets de l'un sont tout de suite plus valorisés que l'autre parce que c'est un mec, alors il entreprend, il prend le temps d'entreprendre et ses projets à elle. Enfin, ça dépend des couples en fait, et c'est intéressant d'échanger autour de tout ça. On peut prendre le plantoir si vous voulez pour faire les trous de 30 par 30. Du coup l'idée ça serait faire comme un 5 au dé.
Un 5 ?
Le 5.
Ah oui, oui, ok.
Et du coup tu fais et au milieu t'en mets un.
Ouais.
Et que du coup il y ait 30 entre là et là. Du coup là il y aura un peu plus mais c'est pas grave, ça fait que
ça marche.
Ça, c'est pour creuser l'espace pour accueillir les racines.
Et derrière, les godets. On peut les récupérer. Les racines, elles sont bien coincées.
On mélange toutes les variétés de fleurs
Non, on va faire un massif l'un, un massif l'autre.
Ok.
Comme elles ont été. C'est pas gênant si on arrache un peu les racines, parce que sinon elles vont pas ressortir comme elles ont été comprimées.
Ah oui, d'accord.
Donc tu peux y aller tranquillement avec le doigt. Des fois, il y en a même qui tu recoupes au sécateur.
Ah ouais, je vous dis ça.
Mais c'est pas forcément gênant.
Lydvine, moi je suis à Montméran et je cultive des fleurs coupées et je fais des bouquets avec.
Roxane du Sivam Drôme, donc animatrice coordinatrice.
Petit fruit.
Là, c'est des framboisiers.
On est en train de planter des petits arbustes. Moi, j'ai apporté une immortelle d'Italie.
Un pommier et un
poirier.
Et un poirier.
Donc, une vivace qui aime bien la chaleur, qu'on a plantée vers les aromatiques.
Ça, c'est là, t'as des cassailles en
fait.
Ton pôle.
Bah, tu peux dire.
Margot.
Je fais partie du groupe de femmes. J'ai des chèvres et je fais du fromage de chèvre. À Chabeuil.
Du coup, ce qu'il faut faire attention à la plantation. C'est de ne pas avoir de poche d'air.
Ok.
Là, quand tu plantes, tu as besoin d'un minimum d'air. Donc si tu tasses trop, tu étouffes les racines. Mais si tu tasses pas assez, la racine, elle n'est pas en contact avec la terre et avec l'humidité, elle va se dessécher.
Ok. J'en mets beaucoup ou pas du fumier? Comme ça, là?
Je pense. Franchement, le fumier, il y a autant de façons... Enfin, j'avais fait un cours d'agronomie où si tu sais pas ce qu'a bouffé les animaux, tu sais pas ce qu'il y a dans ton fumier, en fait. Donc, s'ils ont bien mangé, ça peut être super intéressant ce qu'il y a dedans, mais là, on n'en sait rien.
Ok, on pourrait peut-être contacter le poney.
Ouais, faut demander au poney.
Il a mangé hier matin.
De tout tuer. Mais peut-être, vous avez fait des jardins, vous en savez aussi peut-être des choses, vous avez peut-être des choses à m'apprendre.
Bah, ça vit quoi. Pendant tout l'hiver, ça fait ses racines.
Après, essaye d'écraser son catalogue.
Là, on va terminer de.
De pailler,
ouais, de fertiliser un peu les petites plantes, les petites fleurs annuelles avec du broyat de pin. On a mis du fumier de cheval et puis on va compléter avec du broyat de bois.
T'as pas besoin d'aller aussi profond, madame?
Ouais, je sais, mais je suis trop...
T'es trop vénère.
Concentrée sur ce que je fais.
T'es trop vénère.
Ouais,
ou pas?
Non, tu penses à Sophie. En fait.
T'es juste vénère. Et qui t'a énervé aujourd'hui?
Trop. Ouais. Regarde, je suis super vénère.
Je suis pleine du caca. On lui a pas demandé ce qu'il mangeait. C'est vrai qu'on aurait dû.
Autre lieu protégé, l'oasis. C'est la Chica qui nous y emmène.
«
cierro, estoy cercana, estoy muy lejos, abro y cierro, es un misterio, es un pájaro que vuela muy alto, oh, y se deja perder en mi cielo.
Parlons mots et lecture avec Nadia, qui voit les mots lui échapper sans espoir de retour, mais que rien ne met à terre. Et puis ensuite, un dernier coup de cœur de la sélection sur un ouvrage jeunesse.
Bon, ben moi j'ai 60 ans cette année. Je te disais au téléphone l'autre jour que j'ai enfin le droit aux réductions pour le train, pour le cinéma. Bon, voilà. Tarif réduit, oui, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que je suis née en 1962 et j'ai eu la chance d'être la première petite fille de mes grands-parents et de vivre avec eux et mes plus jeunes oncles et tantes. Et d'avoir des grands-parents qui ont choisi de transporter leur famille en caravane, en toile de tente, dans les petits campings au bord de la plage sur les côtes du Finistère Sud. Mon grand-père, moi je suis née en mai, donc en juin, j'avais un mois, il allait chercher de l'eau de l'océan. Il y avait un petit chemin, on faisait 200 mètres à peu près à pied, puis il revenait, il remplissait une bassine qui faisait chauffer au soleil. Et j'avais le droit à mon petit bain de mer. Et donc, ouais, un vrai bonheur d'être dans la nature. Je ne sais pas si on dit dans la nature, excusez-moi, il faut que j'excuse les auditeurs et auditrices, c'est que j'ai un petit souci actuellement de santé qui s'est posé sur mon lobe gauche du cerveau et qui m'amène à connaître de très près les troubles de langage dont les enfants peuvent être embarrassés. Oui. Voilà. Ma première sortie en ville, c'était pour aller à la bibliothèque. Et donc, j'ai pris le car toute seule. Et là, je devais avoir 9 ans. Alors, les mots, je les avais avant, j'imagine, puisque c'était ma première sortie en ville, c'était pour aller à la bibliothèque et personne ne m'avait obligée. Donc, voilà. Mais parce qu'il n'y avait pas de littérature jeunesse véritablement à cette époque. C'est la grande, le grand bonheur de ces dernières décennies d'avoir fait naître la littérature jeunesse. Ouais. Hein, on parlait de Léonie, c'est un de ses auteurs et qui forme un socle commun. Pour les récits des enfants, pour les enfants. Donc non, j'ai pas trop de petits. Enfin, si, il y avait les contes, les choses comme ça. Mais là, c'était le jour où j'ai commencé, j'ai poussé la porte de la bibliothèque. J'ai pris le livre de. Il y avait un secteur quand même. En même temps, il y avait déjà un secteur enfance. Et j'ai pris un livre de... C'est un auteur de romans de science-fiction très connu.
Jules Verne.
Voilà, voilà, voilà. Et c'était...
Le Nautilus, 20 000 lieues sous les mers.
Voilà.
Ah bah, là, t'as fait la totale quand même.
Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai jamais arrêté de lire. Et là, j'étais très ennuyée parce que pendant 15 jours, j'ai plus pu lire avec cette histoire de petites lésions là. Je pouvais plus lire. Ça, c'était pas possible.
Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Je vais vous parler de Miss Charity, qui est un roman jeunesse écrit par Mario de Muraille et qui s'inspire de la vraie vie de Beatrix Potter, qui était une autrice de livres pour enfants, qui a écrit Peter Rabbit, Jeanne au lapin. Mais qui était aussi une naturaliste et une scientifique. Et dans l'histoire, donc c'est l'histoire de Miss Charity, qui est une petite fille qui naît dans une famille de bonne société anglaise au 19e siècle, mais qui est fille unique, son père est assez peu impliqué, et sa mère est très engoncée dans les conventions sociales, faut pas trop parler, faut pas trop se montrer, faut être comme il faut. Alors elle s'ennuie, bon, pour s'occuper, elle commence à attraper des animaux, à en prendre soin, à les observer. Elle attrape une souris, deux souris, des escargots, un crapaud, des hérissons, tout ça. Et puis, à force de les observer, les dessiner, elle développe un vrai regard de naturaliste. Elle comprend comment ils vivent, elle comprend les plantes, elle se met à faire des illustrations à l'aquarelle, des illustrations de champignons. Et puis, ça va finir par devenir un vrai travail pour elle, mais tout ça, c'est pas très reconnu. Elle va surtout être perçue comme une excentrique. Elle voit toutes ses cousines et ses connaissances se marier, aller dans le monde, et elle reste très solitaire, et avec tout le mépris que cette époque a pour les activités qui sont vues comme féminines. Et tout ça, c'est jusqu'à ce qu'elle réussisse à avoir du succès, à gagner son propre argent avec ses illustrations et ses livres pour enfants. Et donc moi, j'ai adoré ce livre parce que déjà, l'écriture, elle est très belle, très facile à lire, mais c'est hyper malicieux. On a envie d'en relire des passages parfois juste pour les savourer, des chapitres entiers. Et ensuite, j'ai adoré parce que le personnage de Miss Charity, il est extrêmement attachant. On est vraiment avec elle, le livre est de son point de vue, donc on est en empathie avec elle tout le long. C'est une figure féminine qui est très positive car elle est très intelligente, très vive, mais à la fois très douce. Elle a beaucoup de tendresse pour les gens qui l'entourent, elle est hyper gentille. Son histoire, elle est passionnante, même si ça paraît être un simple roman d'apprentissage, c'est palpitant. On attend toujours de savoir ce qui va lui arriver. La fin est super satisfaisante. Et il y a aussi des illustrations qui sont vraiment parfaites de Philippe Dumas qui accompagne le livre. Donc pour moi, un vrai coup de cœur.
C'était Aura des Pâquerettes, l'émission d'Aura FM, la Fédération des radios associatives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une émission 100% féminine ce mois, produite par Radio BLV, dans le cadre du Mars des Femmes sur Radio BLV. Ce sont Sylvie Mabilon et Clément Blanchard qui ont réalisé cette émission. Construisons un monde où l'avenir sera le même, qu'on soit fille, garçon ou autre, et de préférence doux et joyeux. À bientôt!
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.